Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
Bienvenue à tous. Dans cette émission, nous évoquons une nouvelle fois les conséquences du déconfinement en France, un déconfinement progressif selon les régions. Depuis le 11 mai dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel et que la France réalisait 500 000 tests par jour. Alors nous ferons aussi un point sur la situation en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, avec nos invités en Côte d'Ivoire, où depuis le couvre-feu qui est levé le 15 mai dernier, les bars, maquis, restaurants ont pu de nouveau ouvrir leurs portes en compagnie bien sûr de Nadir Djenad et de nos invités. Nous sommes en compagnie de Sophie Fégueux, médecin infectiologue chargée d'expertise et de projet sur les risques infectieux à Santé Publique France. Merci de nous rejoindre, Sophie Fégueux. Et avec nous également, en direct d'Abidjan, le docteur Anno Marin, médecin donc basé à Abidjan, directeur de l'espace médical de la pyramide d'Abidjan. Bonjour docteur Anno Marin, merci de nous rejoindre une fois de plus. Alors docteur Fégueux, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que depuis lundi 11 mai, 25 nouveaux foyers épidémiques ont été découverts, des foyers notamment en Île-de-France, un dans un foyer de jeunes travailleurs à Clamart. Alors faut-il s'inquiéter de la découverte de ces foyers, Sophie Fégueux ?
Alors, non, c'est normal qu'on découvre des foyers. On sait que le confinement, ça a permis de beaucoup réduire la diffusion du virus, mais qu'il est quand même toujours là, même si c'est de façon, heureusement, beaucoup moins importante. Et donc, on découvre des foyers parce que maintenant, on cherche, en fait. C'est-à-dire que dès que quelqu'un présente des signes de Covid, eh bien, on va le tester et on va tester les gens autour de lui, les gens qui ont eu des contacts autour de lui. Donc, c'est normal qu'on découvre des foyers comme ça, puisqu'on les cherche. Justement, l'idée, c'est de les trouver tout de suite avant que ça se répande trop vite et de pouvoir isoler les personnes qui sont atteintes par le Covid, par la Covid.
Docteur Sophie Fégueux, bonjour.
Bonjour.
Connaît-on le profil des personnes qui se contaminent aujourd'hui ?
Alors, bon, on sait que c'est les gens qui ont été en contact avec d'autres personnes. Donc, ça peut être, par exemple, dans le milieu professionnel. Donc, à partir du moment où il y a un certain nombre de gens qui sont ensemble, ça peut être des gens à l'intérieur des familles. Parce que quand on est à l'intérieur d'une famille, évidemment, on a plus de risques. On a des contacts répétés, rapprochés. On a plus de risques de l'attraper. Donc, c'est tout ce qui... Donc, c'est à l'intérieur des familles. Et puis, c'est tous les gens qui ont des contacts, que ce soit par leur travail, leurs loisirs, et donc qui sont amenés à avoir des contacts rapprochés, répétés avec un certain nombre de gens.
Est-ce que c'est par le fait que plus de tests sont réalisés aujourd'hui qu'on découvre de nouveaux foyers ? C'est ce que vous expliquez ?
Alors, c'est l'idée. On fait maintenant les tests systématiquement dès qu'il y a quelqu'un donc, qui présente les signes, parce que justement, on cherche à trouver ces foyers. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver à contenir cette épidémie. C'est en empêchant les foyers de se diffuser. Donc on essaie vraiment de les trouver le plus vite possible.
Alors, docteur Sophie Fégueux, environ 40 000 des 50 000 écoles de France ont rouvert leurs portes la semaine dernière, mais 70 ont dû refermer depuis pour suspicion de cas de Covid-19. Est-ce que cela ne va pas renforcer l'inquiétude des parents ?
Alors, on peut dire que 70 sur 50 000, c'est quand même pas beaucoup, hein. Donc c'est plutôt rassurant. Donc on sait bien qu'il y a forcément quelques cas. Et ce qui est important, c'est ce qu'on disait juste à l'instant, c'est-à-dire dès qu'on a des cas, eh bien on va faire des isolements, donc on va fermer ces écoles. Et puis au bout de la quatorzaine, eh ben on pourra les rouvrir. C'est dans la même idée, c'est-à-dire dès qu'il y a un cas, on le trouve, on s'occupe des contacts autour, on prend les mesures nécessaires, et c'est ça qui évitera d'avoir une expansion. En tout cas, on peut dire que ça fait quand même peu de cas par rapport à l'ensemble des écoles qui ont ouvert, donc c'est plutôt rassurant.
Il n'y a pas de nouvelles écoles qui ont dû fermer ces dernières heures, vous n'avez pas des informations
alors
à ce sujet ?
Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas les données sur les dernières heures, je pense que c'est l'éducation nationale qui doit savoir.
Alors, Sophie Figel, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel. Concrètement, oui. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, ça veut dire que maintenant, tous les médecins généralistes donc sont dans le système, puisque c'est eux qui vont à la base voir les patients. Donc, un médecin généraliste qui voit un patient qui présente des signes, il va tout de suite lui proposer de faire le test. Il va lui demander, en attendant le résultat, qui met à peu près 24 heures, de s'isoler, hein, et de porter des masques. Et puis, si le test est positif, à ce moment-là, il va pouvoir envoyer les coordonnées de la personne et de ses contacts pour que à l'assurance maladie et l'assurance maladie pourra contacter les personnes qui ont été contacts elles-mêmes du premier patient pour que les gens puissent s'isoler. Donc tout ça c'est fait pour qu'il y ait un système qui permette tout de suite aux personnes malades et à leur entourage de s'isoler, mais aussi aux personnes qui ont été en contact avec elles au moins 48 heures avant l'apparition des signes, d'être au courant et de pouvoir s'isoler. Et comme ça, on espère donc casser toutes les chaînes de contamination. Donc c'est par exemple ce qui s'est fait en Corée du Sud, où on sait que le système a été très efficace.
Docteur Sophie Figu, sur la question des masques, alors pourquoi ne rend-on pas le port du masque obligatoire dans l'espace public, puisque l'on sait qu'il est efficace ?
Alors, les masques, donc c'est un complément des mesures barrières déjà. Hein. Donc il faut absolument que les gens continuent à respecter les autres mesures. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a certaines mesures, par exemple se laver les mains très régulièrement, les gens ont tendance à un peu oublier. Donc il faut vraiment dire que les mesures barrières, il faut les continuer absolument. C'est quand même la base. Et la distanciation physique, c'est-à-dire se tenir à plus de 1 mètre des gens. Alors pour l'instant, c'est vrai que le masque est obligatoire dans les transports. Dans un certain nombre de magasins, si les personnes dans les magasins, les propriétaires le demandent. À l'extérieur, à l'heure actuelle, le risque est quand même est moins important. Donc bien sûr, il faut absolument continuer les mesures barrières. Mais le risque n'est pas le même quand on est à l'extérieur que quand on est à l'intérieur où on sait que le virus s'attrape beaucoup plus facilement. Donc les choses peuvent évoluer, mais pour l'instant, il y a une obligation dans les transports et dans les magasins si c'est demandé par les propriétaires du magasin.
Alors toujours sur les masques, quel type de tissu doit-on prendre si on fait soi-même son masque ?
Alors, vous savez qu'il y a l'AFNOR qui a donné un certain nombre de normes, donc sur la façon de le fabriquer, les tissus à utiliser.
Donc, l'AFNOR, peut-être pour nos auditeurs.
Pardon, l'AFNOR, donc c'est AFNOR. Donc c'est des normes qui sont données pour les fabricants. Donc c'est un peu compliqué quelquefois. En tout cas pour vous et moi, les gens qui veulent faire des masques, le plus simple c'est de se dire que ce qui est facile à utiliser, c'est du coton, mais du coton serré. Enfin, il faut que ça soit plutôt des tissages serrés, un peu de la popeline ou du satin de coton, pas un coton très lâche, hein, pas de la mousseline. Donc il faut que ça soit suffisamment serré comme tissu. Et donc l'avantage du coton, c'est aussi qu'on peut le laver quand même assez facilement à 60 degrés. Enfin, donc on peut l'entretenir de façon efficace.
Alors justement,
je pense qu'on peut dire déjà qu'à la base, utiliser du coton, c'est ce que font la plupart des gens, c'est bien, quoi.
Concernant le lavage, justement, vous dites 60 degrés, 60 degrés, d'accord, mais comment on le lave avec du savon, avec du...
Alors, on prend ça, bon, si c'est en machine, on prend sa lessive habituelle, hein. Le tout, c'est de mettre, alors l'AFNOR dit c'est 60 degrés pendant 30 minutes. Alors le séchage, si on peut en machine, sinon si on le laisse sécher, il faut le repasser après. Donc avec ces méthodes qui sont relativement simples, donc bien sûr on peut mettre les masques par exemple avec les draps, les serviettes, enfin sa lessive habituelle, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne va pas faire une lessive évidemment pour un masque, quoi.
D'accord. C'est obligatoire de le repasser, le masque ?
Non, le repassage,
il vaut mieux.
On ne peut pas le faire sécher, par exemple, avec le programme séchage d'une machine.
D'accord. Sophie Figuero, il y a une question aussi qu'on évoque beaucoup, hein, qui a été évoquée beaucoup, c'est la réouverture des parcs en zone rouge. Cela a été demandé par plusieurs maires. Alors pourquoi l'État ne veut pas réouvrir les parcs dans les départements classés en zone rouge ?
Alors, il y a quand même déjà un certain nombre de parcs, hein, qui, alors on en a beaucoup parlé, en particulier dans l'Île-de-France. Donc il y a un certain nombre de grands parcs qui ont déjà réouvert. Donc c'est plus pour des parcs de taille plus réduite. Alors bon, c'est une évaluation des risques. Il faut savoir que les choses peuvent évoluer. Donc pour l'instant, l'évaluation, ça a été de dire qu'il y avait plus de risques que de bénéfices à les ouvrir. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction des connaissances et puis de ce que font les gens et de ce que devient l'épidémie.
Docteur Anneau Marin, bonjour. Le couvre-feu est levé à Abidjan et sa région depuis le 15 mai dernier. Les maquis et restaurants fermés depuis le 24 mars ont pu ouvrir de nouveau. Alors comment s'est passée la rouverture de ces établissements ? S'est-elle faite dans le strict respect des gestes barrières ?
Bonjour. Alors effectivement, les maquis et les restaurants, ce sont des lieux de restauration où est-ce qu'en dehors de la restauration, il y a aussi de la consommation d'alcool. Alors on avait trois types de population. Ceux qui trouvaient pas nécessaire et utile, vu la pandémie, d'ouvrir ces maquis. Ceux qui étaient à la limite indifférents ou neutres, qui ne fréquentent pas ces lieux. Et il y avait ceux qui l'attendaient impatiemment, avec joie. Alors donc, devant l'euphorie, il n'y a pas eu de respect de cette distanciation physique, parce que consommer de la nourriture et de l'alcool rentrait dans un état d'ivresse. Donc il y avait cette convivialité, ce choix, donc les gens se sont laissés aller. Il a même eu de la triche, parce que vous avez dit les maquis et les restaurants ont permis de s'ouvrir, mais par contre les bars étaient fermés. Alors qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils ont créé des maquis devant des bars et ils ont ouvert. Alors donc vous voyez que les gens consommaient, ils rentraient dedans. Donc la police même a été obligée à un certain moment de fermer certains bars, de donner beaucoup de contraventions. C'est vrai que c'était difficile parce qu'ils ont ouvert sans organisation pratique. Il fallait augmenter le nombre de personnes qui viendraient pour faire le chiffre, rattraper ce qu'on a perdu pendant ce temps-là. Donc il n'y a pas eu effectivement, comme on l'aurait souhaité, ces mesures barrières-là qui pouvaient être respectées.
Le port du masque est obligatoire, docteur Anneau Marin. Est-ce que les Abidjanais le portent un peu plus, hein, depuis le 15 mai ?
Alors, en toute sincérité, il y a deux aspects. D'abord, un, il faut pouvoir acquérir le max. Deux, l'avoir sur soi. Et puis, trois, le porter. Donc, aujourd'hui, dans la population, presque tout le monde a un max. Maintenant, le porter, c'est là... la bataille, parce que les forces de l'ordre dans les transports en commun, dans les lieux, sont obligées de faire la campagne de sensibilisation. Nous autres, en entreprise, on a constaté que effectivement, l'entreprise met à la disposition des travailleurs des masques, mais c'est un pour le désagrément que le max porte au niveau de la buée sur les lunettes, des douleurs au niveau du pavillon de l'oreille et puis l'inconfort respiratoire. Souvent, ils ont les masques, mais ils ne les portent pas. Donc, ils sont obligés de faire la campagne de sensibilisation. Et même dans certaines entreprises, on va passer un peu à des mesures coercitives de demande d'explication, d'avertissement, pour que les gens comprennent que le port du masque est une des mesures complémentaires très importantes dans les mesures barrières.
Alors justement, comment dans ce contexte maintenir la vigilance et la mobilisation des Ivoiriens alors que visiblement les chiffres sont beaucoup moins inquiétants qu'en Europe, docteur Anneau Marin ?
Alors effectivement, nos chiffres ici sont moins inquiétants, mais ces chiffres sont généralement faits ici à partir de prélèvements de personnes de contact, comme disait docteur Sophie tout à l'heure, des personnes suspectes. Alors c'est pas toute la population, il y a des porteurs asymptomatiques. Et le second problème, c'est que nous ici, les maladies chroniques, facteurs de comorbidité qui entraînaient une complication et même les décès, puisque tous les décès que nous avions ici souvent sont dus à ces facteurs de comorbidité. Il y a moins large que ces facteurs de comorbidité. Donc c'est la campagne de sensibilisation leur fait comprendre que ce virus, il est actif, la contamination elle est intercommunautaire et prendre en charge tous ceux qui ont des maladies chroniques, les sensibiliser au niveau des différents programmes de sensibilisation, de prise en charge de ces maladies chroniques et au niveau des entreprises où est-ce que nous exerçons.
Docteur Anomarin, juste une question technique avant de reprendre le cours de l'interview. Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner un petit peu du micro, si c'est possible, pour avoir un son de meilleure qualité et que tous nos auditeurs puissent vous écouter d'une très très bonne manière. Merci beaucoup, docteur.
Merci. Alors, va mieux. Ça va mieux maintenant.
Voilà, oui, ça, c'est parfait. Merci, docteur. Alors, le gouvernement ivoirien a décidé que les écoles d'Abidjan ne pourront rouvrir qu'à compter du 25 mai. Comment les familles se préparent, elles, pour cette rentrée?
Alors, elles se préparent dans deux états. Il y a un sentiment de joie. Les enfants, c'est les classes d'examen. Les enfants pourront reprendre l'école. Ça va permettre à ceux-ci d'avoir une formation et puis tout en sachant que les enfants étant à la maison, c'est beaucoup de dépenses, faut surveiller les accidents domestiques, donc les enfants vont se retrouver à l'école. Deuxièmement, le sentiment d'inquiétude, c'est l'organisation, parce que nous savions que dans nos écoles ici, il n'y a pas assez de classes, il n'y a pas assez de tables bancs. Dans certaines écoles, les enfants étaient assis deux fois trois par banc. Comment est-ce que les organiser pour qu'on puisse respecter ces mesures de distanciation physique? Et déjà, pour ce qui s'est passé à l'intérieur, l'organisation, d'abord, au niveau du personnel, c'est pas tous les enseignants, généralement, c'est autour de 85% des personnels enseignants qui étaient présents. Mmh. Les élèves, c'est autour de 60%. Ils ont augmenté le nombre de classes parce qu'il faut réduire une classe qui faisait 60%, il faut la peut-être diviser en deux pour pouvoir avoir des classes de 20 à 25 élèves. Donc ça va augmenter le nombre de locaux. Quand sera-t-il des autres classes lorsque l'ouverture va se faire? Et comme vous l'avez si bien dit aussi, et avec cette ouverture, il y a le facteur de risque de contamination. Est-ce que ces écoles ne vont pas se refermer? Donc, ces familles sont dans deux sentiments, sentiment de joie et sentiment d'inquiétude, d'anxiété. Qu'en sera-t-il après deux semaines, un mois de cours au niveau de l'organisation et au niveau des cours eux-mêmes?
Concernant les entreprises, hein, docteur Anomarin, est-ce que les gens ont repris le travail au plateau, le quartier d'affaires, et les entreprises ont-elles aménagé les espaces de travail?
Alors, effectivement, nous avions deux indicateurs pour savoir que les gens reprennent le travail. C'est le nombre d'embouteillages, le nombre de présence de véhicules sur le plateau, qui est le centre des affaires, et le nombre de personnes dans les rues du plateau. Effectivement, on sent qu'il y a, ça bouchonne lorsqu'on se rend au plateau aux heures de pointe. Quant aux entreprises, effectivement, elles ont organisé les espaces de travail en créant les distanciations, en séparant les bureaux. Pour ceux qui étaient dans les bureaux style américain, il y a des parvents transparents. Il y a eu beaucoup d'aménagements pour respecter les mesures barrières. Il y a eu des visières pour ceux qui seraient amenés à travailler ensemble. Il y a eu des dons de masques. Tout a été mis en place pour que on réduise le taux de contamination sur le lieu du travail. Et même en venant au travail, il y a le covoiturage qui a été organisé par certaines entreprises pour éviter que les travailleurs prennent le transport en commun. Donc il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été faites au niveau des entreprises, de certaines entreprises.
Retour à Paris avec le docteur Sophie Fégueux, médecin infectiologue chargé d'expertise et de projets sur les risques infectieux à Santé publique France. Docteur Sophie Fégueux, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que 500 000 tests étaient réalisés chaque jour. Tout d'abord, quel genre de tests et ont-ils le même objectif?
Alors, en fait, c'est quand même un peu moins. Il a dit qu'on pourrait faire 100 000 tests par jour. En fait, c'était 700 000 par semaine, ce qui est déjà énorme. Alors, c'est vrai que les tests, il y a deux sortes de tests. Les tests dont il parlait, c'est les tests qui permettent de trouver directement le virus. C'est-à-dire qu'en mettant un écouvillon dans le nez, bien profondément, bon, ce qui n'est pas forcément agréable, on va trouver, par quelque chose qui s'appelle la PCR, on va trouver directement le virus. Donc c'est ça qui permet de dire que les gens sont porteurs du virus. Donc ça, ça dure quelques jours au moment où les personnes sont porteuses et sont contaminantes. Donc c'est ça, pour pouvoir repérer les gens qui sont porteuses du virus et qui risquent de le passer, c'est ça dont a parlé le ministre. Donc c'est là où on pourra faire jusqu'à 100 000 tests si besoin. Pour l'instant, je pense qu'il y en a moins parce qu'il n'y a pas autant de gens que ça qui en ont besoin parce qu'on sort du déconfinement là, donc il n'y a pas tant de gens que ça. Mais en tout cas, on peut le faire, on peut faire jusqu'à 100 000 par jour, ce qui est tout à fait énorme. Et il y a, en fait, il y a 3 000 laboratoires en France qui peuvent le faire maintenant. Donc ça, c'est le premier test. Alors ce test, il est gratuit si le médecin vous a fait une prescription. Il est pris complètement en charge par la Sécurité sociale. Donc il est fait dans les laboratoires à l'hôpital ou maintenant beaucoup de laboratoires de ville, et on a les résultats au bout de 24 heures en général.
Donc ça, c'est le test. Est-ce que tout le monde peut passer ces tests? Est-ce que tout le monde peut passer un test? Moi, par exemple, est-ce que je peux passer un test?
Ça va être sur la prescription du médecin. Quand vous avez des signes ou quand vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été malade, qui est porteur du virus, le médecin vous fait une prescription. Et avec cette prescription, vous allez faire le prélèvement dans un laboratoire et c'est pris en charge à 100%. Alors, le deuxième test, qui est pour l'instant se fait beaucoup moins, c'est la sérologie. C'est-à-dire, on recherche les traces, les anticorps qui montrent qu'on a été en contact avec le virus. On a été en contact, ça peut être il y a 2 mois, il y a 1 mois, il y a 15 jours. Alors ce test, il n'est pas tout de suite positif, il met au moins 10-15 jours, donc il ne sera pas utile pour trouver faire le diagnostic des personnes qui sont malades en ce moment et qui risquent de contaminer les autres. Ce test est plutôt pour savoir après coup si on a été en contact avec le virus. Alors ce test, il n'est pas encore, et c'est pas encore complètement validé. On n'a pas encore la liste des tests qui sont reconnus comme étant efficaces. Donc ça va être probablement dans les jours qui viennent. Et on le fait que dans des cas particuliers, donc pour des études, par exemple, pour savoir quelle est la fréquence des gens qui ont été en contact avec le virus, ou pour certains métiers comme les soignants. Donc le ministre l'a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, les soignants pourraient tous avoir ce test. Et donc c'est pour l'instant pas la population générale. Ce qui est important pour casser l'épidémie, c'est le premier test dont on a parlé, c'est-à-dire la recherche directe du virus dans le nez, ce qu'on appelle la PCR.
Alors, docteur Sophie Fégueux, il y a eu du monde dans les rues depuis le 11 mai dernier, le week-end dernier notamment. Cependant, certains restent encore confinés chez eux. Ont-ils raison de le faire? Et puis, est-ce que le déconfinement peut entraîner des angoisses, comme cela a été le cas pour le confinement il y a 2 mois?
Alors, il y a des personnes qui restent confinées, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a, donc mon collègue en parlait tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de gens qui présentent plus de risques, qui risquent de faire une maladie sévère. Donc on sait que c'est les personnes qui ont plus de 65 ans, c'est les personnes qui ont un certain nombre de maladies comme des maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, enfin toutes sortes de maladies chroniques, et puis aussi très important, les gens qui sont obèses. L'obésité, c'est un gros facteur de risque. Donc tous ces gens-là, il faut qu'ils soient encore plus prudents que les autres. Donc c'est pour ça qu'ils ont intérêt à éviter encore plus que les autres de d'avoir des contacts rapprochés, et donc de rester à la maison. Moi, ça me paraît quand même assez raisonnable pour un certain nombre de gens. Alors par ailleurs, bon, la vie reprend quand même, mais la vie reprend pas comme avant, c'est-à-dire on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a vraiment quand même pas mal de précautions à prendre. Et le déconfinement, comme vous dites, il y a une partie des gens qui sont très heureux d'être déconfinés, et puis il y a une autre partie des gens pour qui c'est pas si simple, parce que ils ont effectivement peur, ils se sont sentis protégés quand même par le confinement, et c'est vrai que ça peut être à l'origine d'angoisse de se contaminer, de reprendre des risques. Donc c'est pas forcément toujours simple de se déconfiner.
Docteur Anomarin, juste pour revenir sur la question des tests, alors comment cela se passe, donc la réalisation des tests en Côte d'Ivoire, sont-ils accessibles à tous ceux qui le souhaitent, et est-ce que dans les entreprises, certains employeurs ont décidé de faire tester leurs salariés ?
Alors, c'est sensiblement le même cas que décrivait ma collègue Sophie Fugue tout de suite. Et les tests ne sont pas... c'est sous prescription médicale. Aujourd'hui, dans le cas de la prise en charge, il y a eu les médecins généralistes qui ont été formés. Et ici, en Côte d'Ivoire, dans notre système sanitaire, il y a même des infirmiers dans certaines bases qui prennent en charge certaines consultations. Donc, tous ceux-ci ont été formés. Donc, c'est sous prescription. Et généralement, ces tests-là... vu qu'il n'y en a pas assez, c'est réservé aux personnes contact, aux personnes suspectes et dans le suivi des personnes Covid positives. Donc cela s'applique aussi aux entreprises. Au début, nous avons subi la pression, nous médecins du travail. Toutes les entreprises souhaitaient que le personnel soit dépisté pour des mesures de prévention. Mais quand on sait qu'on peut dépister aujourd'hui et puis ne pas se respecter les mesures et 48 heures après se faire infester, donc on a misé beaucoup plus sur les campagnes de sensibilisation pour éviter la contamination. Et lorsqu'on découvre un cas suspect ou un cas contact, en même temps, on lui propose le test qui... est fait dans certains centres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des centres qui ont été un peu, et surtout à Abidjan qui est l'épicentre, des centres qui ont été faits de manière à proximité où est-ce qu'on adresse ces personnes-là pour les tests.
Alors, docteur Sophie Fégueux, il y a une question aussi qui intéresse beaucoup nos auditeurs concernant la garde des enfants. Beaucoup de parents ont des problèmes de garde de leurs enfants s'ils doivent retravailler. Quelle est la recommandation pour la garde par les grands-parents ?
Alors, c'est vrai que c'est un problème compliqué parce que les grands-parents, bon, ça dépend un peu des grands-parents. Il y a des grands-parents qui sont encore assez jeunes. Mais si les grands-parents ils sont dans les facteurs de risque, c'est-à-dire s'ils ont plus de 65 ans, s'ils ont des maladies, comme je disais tout à l'heure, l'hypertension artérielle, les problèmes de cœur, de poumons, et s'ils sont obèses, il faut quand même être très prudent pour qu'ils n'attrapent pas le virus, que ce soit par les enfants ou un autre membre de la famille. Donc je peux pas répondre pour tous les cas, mais il faut faire au cas par cas, hein, mais en se disant que les grands-parents, il faut pas qu'ils s'infectent. Donc faut pas prendre de risques. Alors les enfants, on pense que peut-être ils passent moins que le virus que d'autres populations, mais ils peuvent quand même le passer. Et donc, je ne peux pas donner une recommandation générale parce que c'est des cas particuliers, il faut voir dans chaque famille. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête l'idée qu'il y a des gens qui sont plus fragiles et que ça peut être les grands-parents. Voilà.
Merci à tous, en tout cas pour cette émission. La pause va arriver dans un instant. Merci pour la préparation de l'émission, Nadir Djennet. Merci à vous, Sophie Fégueux. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue chargé d'expertise et de projets sur les risques infectieux à Santé publique France. Merci à vous, docteur Anouk Marin, médecin basé à Abidjan, directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Merci beaucoup pour cette émission. Et à très bientôt, la suite avec Ambiance Africa qui démarre dans quelques minutes. Bienvenue, c'est mercredi aujourd'hui, c'est le 20 mai 2020. Et notre rendez-vous santé de manière exceptionnelle aujourd'hui en raison du jour férié demain. Allez, c'est la pause. On va se retrouver juste après avec l'info. On va retrouver nos confrères de BBC Afrique.